Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile. Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Le pass vaccinal sera au menu du Conseil des ministres dès le 27 décembre prochain, la semaine prochaine. On l'a appris ce matin, le variant Omicron rebat totalement les cartes, il faut le dire. On rentre dans une période de forte turbulence, dit Gabriel Attal, qui doit reprendre la parole d'une minute à l'autre. On est avec Louis Dragnel dans le studio du service politique d'Europe 1, évidemment. Louis, à tout de suite. La fin de la prise d'otage à Paris, elle aura duré toute la nuit. Le récit de cette issue, qu'on peut qualifier d'heureuse, car les otages n'ont pas été physiquement blessés, les informations de William Molinier. Valérie Pécresse en Arménie, où les chrétiens souffrent. Alexandre Chauveau, qui suit la candidate pour Europe 1, sera avec nous. Le prix des assurances auto est en baisse. Et oui, il faut le souligner, le détail avec Aurélien Fleureau. Noël J-4, après les huîtres hier, on sera en direct avec un producteur de foie gras de canard. Et puis la tendance météo avec vous Anissa Haddadi. C'est aujourd'hui le solstice d'hiver et on vit la plus belle journée de la semaine. Hein.
Oui, vous avez remarqué ce grand sourire derrière mon masque, Romain. Et bien effectivement, l'entrée dans la saison hivernale va se faire dans le froid certes, mais sous le soleil cet après-midi. Attention tout de même au brouillard qui résiste. Hein. Et puis au bord de la Méditerranée, on a des nuages qui viennent assombrir le ciel. Les températures sont comme ce matin en chute libre.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Le gouvernement veut accélérer pour faire face à la diffusion du variant Omicron qui se répand à travers la planète. Il représente désormais plus de 73% des cas, par exemple aux États-Unis, et il monte en puissance chez nous en France. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Quelles sont les différentes options sur la table du gouvernement ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, est assez inquiet. Alors c'est la raison pour laquelle le projet de loi de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal qui devait être étudié au Conseil des ministres le 5 janvier, sera étudié dès la semaine prochaine, le 27 décembre, pour être ensuite débattu à l'Assemblée nationale le 3 janvier. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'objectif du gouvernement, c'est d'éviter à tout prix les mesures de couvre-feu et de confinement. Rassurez-vous donc, il ne devrait pas y avoir d'annonce en ce sens pour les fêtes de Noël. Ensuite, le gouvernement avance pour le moment en deux temps. Donc d'abord Noël, on vient d'en parler, et ensuite, il y aura sans doute de nouvelles mesures pour le réveillon du 31 décembre. Et en fait, le gouvernement est fixé sur deux paramètres, le nombre de contaminations qui explose, même si les gens aussi se testent plus. Et puis, il y a aussi la pression hospitalière. On a dépassé hier les 3000 hospitalisations en réanimation. Alors, à ce stade, l'hôpital n'est pas saturé, mais le nombre de lits n'a pas augmenté depuis le début de la pandémie. Et c'est pour ça, en fait, que l'exécutif est particulièrement inquiet.
Merci beaucoup, Louis. Les pays se protègent. On apprend à l'instant qu'Israël interdit les voyages avec les États-Unis. Annonce officielle il y a quelques minutes. On va balayer toutes les dernières informations concernant la situation sanitaire et le variant Omicron avec Didier Pittet. Bonjour Didier Pittet. Merci d'être Bonjour. Avec nous. Vous êtes épidémiologiste, médecin-chef du service de prévention des infections des hôpitaux de Genève. Le variant Omicron, il se répand très vite. Pour être extrêmement clair, est-ce qu'il est plus ou moins dangereux que Delta ?
Écoutez, le variant Omicron est avant tout beaucoup plus contagieux que Delta, donc il se propage beaucoup plus rapidement. Et les données cliniques manquent encore pour savoir s'il est plus, moins ou dangereux de la même manière que le variant Delta. Le fait est que comme il se propage extrêmement rapidement et a toutes les capacités pour cela, évidemment qu'en nombre de patients, ça fera de toute manière un certain nombre de patients qui seront admis dans les hôpitaux, c'est certain.
Mmh. Ce que je remarque, c'est qu'à ce jour, on ne sait pas tout sur ce variant. Hein.
Non, visiblement pas. On sait par contre que ce variant est moins sensible à la fois à la vaccination et finalement à l'infection naturelle que le variant Delta, d'où l'importance évidemment d'aller le plus rapidement possible à la dose de rappel, qu'on appelle aussi troisième dose, parce que cette troisième dose, entre guillemets, restitue finalement la capacité de la plupart des vaccins à éviter l'infection grave au variant Omicron.
Ce qui veut dire que si l'on n'a reçu que deux doses, on est très peu protégé, pour ne pas dire pas protégé ?
Oh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas protégé, ça veut dire qu'on l'est moins que ce que la protection que nous confère le vaccin contre le variant Delta. Mais ça dépend évidemment du moment auquel vous avez fait votre deuxième dose et puis aussi évidemment de votre âge, de votre état immunitaire. Donc pour une seule personne, c'est assez difficile de le dire. Par contre, pour une population, c'est très net qu'il faut aller vers cette dose de rappel le plus rapidement possible.
Sur la contagiosité du variant Omicron, vous confirmez qu'un malade contamine en moyenne 10 personnes ?
Oui, alors ça dépend évidemment des investigations épidémiologiques. Il est vrai que on dit que d'après les premières données qui sont à disposition, c'est un variant qui est 3 fois plus contagieux que le variant Delta, au moins, variant Delta qui, on se souvient, était au moins 2 fois plus contagieux que ses prédécesseurs. Donc voilà, maintenant évidemment, tout dépend des données. Ce variant Omicron a été documenté comme étant capable de faire ce qu'on appelle des macro-clusters, c'est-à-dire des grosses épidémies localisées, notamment en Norvège, au Danemark, à différents endroits. Mais évidemment, tout dépend des mesures de précaution. Je rappelle qu'aucun variant ne résiste aux gestes barrières. Donc ça veut dire que si on retourne aux bonnes vieilles habitudes et qu'on les applique de manière la plus rigoureuse possible, le variant ne se propage pas. Mais évidemment, on voit que c'est compliqué.
Oui. Une dernière question, une réponse rapide, s'il vous plaît. Vous êtes inquiet à l'approche de Noël ?
Oh, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il faut que chacun, finalement, respecte les bonnes consignes. Et puis, on pourra passer des fêtes de Noël, bien sûr, en cercle un peu plus restreint qu'on l'aimerait. Mais c'est tout à fait possible. Et puis, on recommande à chacun d'aller se faire tester avant les fêtes de famille. C'est bien des autotests, idéalement le matin même ou le jour avant. C'est toujours mieux.
On va rester sur cette note positive. Merci beaucoup, professeur Pittet. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bon après-midi à vous. Il est 12h36. Je voulais qu'on soit aussi avec un patron de service de réanimation. Quelqu'un qui, passez-moi l'expression, mais a les mains dans le cambouis. Jean-François Timsit, bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris.
Bonjour
et merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Quelle est la situation dans votre service? Combien de lits reste-t-il de libre?
Ah ben, ça, c'est simple, c'est zéro, hein, le nombre de lits disponibles avec environ un tiers de patients atteints du Covid et deux tiers atteints d'autres maladies, hein, parce que la vie ne s'arrête pas, bien heureusement.
Oui, vous n'avez pas que des patients Covid en réa. Sur vos patients Covid, vous avez une idée du taux de patients Omicron chez les Covid plus, les positifs à la Covid?
Pour l'instant, il n'y en a pas qui ont atteint des taux de gravité importants. Il faut savoir que c'est un peu mathématique, hein, parce que la contamination, elle se fait à l'heure actuelle. Puis là, déjà en Île-de-France, on est à près de 30% de micro. Mais en fait, ils n'arrivent pas encore en réanimation, parce que le temps d'être relativement grave, il faut environ une dizaine de jours. Et donc, on en a très peu. Donc, aucun de positif à ce jour dans mon service sur l'Omicron.
Ah oui, il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'on se contamine en ce moment et puis dans les jours prochains, vous allez voir arriver les premiers patients Omicron en réanimation.
Absolument.
Vous avez beaucoup de non-vaccinés?
Ah bah c'est très clair que ça n'a pas changé, c'est-à-dire 4/5 de patients absolument non vaccinés. Et puis le dernier 1/5, c'est des gens qui ont des transplantations d'organes, des immunodépressions sévères, qui sont incapables de créer des anticorps, qui malgré 3 doses de vaccination ne sont pas protégés.
Ouais,
donc,
ouais.
C'est eux qui vont supporter le poids de l'explosion du virus à l'extérieur de l'hôpital, hein, parce qu'ils vont se faire contaminer et ils sont très très peu protégés.
On entend beaucoup de chefs de réanimation, comme vous, furieux contre les non-vaccinés. Je lisais ce matin dans Le Parisien un poids lourd de la majorité, donc un politique, dont les propos sont repris par mes confrères du Parisien, et qui dit, en clair, en substance, qu'il faut faire payer aux patients non vaccinés leur passage à l'hôpital. Il y a une vraie colère envers ceux qui ne se vaccinent pas dans votre équipe?
C'est d'une part, on considère de plus en plus que les gens, c'est suicidaire de leur part, et puis c'est assez irresponsable. Vous avez tous dans votre entourage des gens qui sont un peu fragiles, et si par hasard, pour des raisons un peu stupide comme ça, on s'est opposé à la vaccination et qu'on est responsable de la mort de quelqu'un, bon, on va s'en vouloir toute sa vie. Donc avant de dire c'est obligatoire, ce qui devrait, à mon avis et à mon sens, être fait, hein, qui nécessite un certain courage politique, mais Mais je pense que maintenant, on est au pied du mur et je pense qu'il est important de le faire si on veut continuer à vivre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Si vous voulez rester dehors, pas être confiné, il faut une solidarité nationale et puis il faut faire un effort collectif.
Merci beaucoup, professeur. Merci, Jean-François Timsit, d'avoir été en direct avec nous, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris. Restez bien avec nous sur Europe 1. Il est 12h40. Dans un instant, le récit d'une nuit d'angoisse à Paris. Deux femmes étaient retenues en otage. Ça s'est, entre guillemets, bien terminé ce matin. Récit et information avec William Molinier. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h42, nuit d'angoisse à Paris dans le 12e arrondissement où un déséquilibré qui se présentait comme un magistrat tunisien a retenu une femme en otage durant toute la nuit. Comme l'autre otage qui a été libérée, elle, dans la soirée, elle n'a pas été physiquement blessée. William Molinier du service police-justice d'Europe 1, comment en est-on arrivé à cette issue sans qu'il y ait de blessés ?
Eh bien, c'était la priorité de la BRI, obtenir dans le calme, sans effusion de sang, la reddition du preneur d'otages. La négociation a duré tout au long de la nuit. Selon nos informations, elle a été émaillée de pics de tension. Il a fallu parfois renouer le contact avec le forcené qui était vraisemblablement en difficulté psychologique. Il disait être victime d'un empoisonnement et vouloir un procès pour faire reconnaître son statut de victime. Il voulait parler au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'est finalement tôt ce matin qu'il a eu au téléphone une autorité en la personne de Didier Lallemand, le préfet de police, qui lui a demandé de se rendre, chose qu'il a faite aux alentours de 8h15.
Alors, il y a une autre question. Que sait-on du preneur d'otages et qu'est-ce qui va advenir de cet individu ?
Alors l'enquête va devoir établir ses motivations précises. Son identité va être relevée formellement avec des prises d'empreintes. Lui, il s'est présenté comme un ressortissant tunisien âgé de 56 ans. Il est connu pour avoir eu des antécédents psychiatriques et notamment pour avoir harcelé à de nombreuses reprises une médecin du quartier. Il est actuellement entre les mains des policiers. Un médecin va l'ausculter et déterminer si son état de santé mentale est compatible avec une mesure de garde à vue. Si ce n'est pas le cas, il sera très certainement placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
Merci beaucoup, William. Simon Riondet est le patron de la BRI. Qu'est-ce qui a amené le preneur d'otage à se rendre ?
Ce qui va l'amener en fait à se rendre, c'est une écoute attentive. C'est-à-dire qu'il faut réussir à le comprendre, ce qui nous permet aussi, encore une fois, de nous adapter, d'adapter notre dispositif, sentir s'il est en phase de montée un peu délirante et qu'il devient dangereux, ou au contraire s'il est en train de descendre. En fait, on va profiter de l'arrivée du préfet de police, en coordination avec lui. On va en discuter et on va proposer au préfet de police, qui est le représentant de l'État sur Paris, d'être le point de sortie qu'on va proposer à cette personne. Alors un point de sortie, c'est quoi ? C'est donner à cette personne, lui tendre une perche et lui donner la possibilité en fait, de sortir, je dirais, le plus dignement possible de la crise, sans qu'il ait l'impression d'être manipulé.
Voilà le patron de la BRI qui répondait aux questions de William Molinier. On l'a appris ce matin. Vous vous souvenez de ce drame au Niger où 6 humanitaires français avaient été tués, ainsi que leur guide et leur chauffeur. C'était en août 2020. Eh bien, l'armée française a tué un des auteurs de cet assassinat. Il s'agit de Soumana Bourra, qui a été neutralisé par une frappe aérienne opérée par nos militaires. C'est cet individu qui avait lâchement filmé l'exécution des humanitaires et en avait assuré la médiatisation. Premier déplacement à l'étranger pour Valérie Pécresse. La candidate des Républicains a débuté ce matin son déplacement en Arménie, une visite symbolique évidemment pour Valérie Pécresse, venue montrer son soutien aux chrétiens d'Orient. Alexandre Chauveau est à Erevan pour Europe 1. Alexandre, la candidate sort tout juste d'un déjeuner avec le président de la République. Hein ?
Oui, et l'entretien s'est évidemment tenu à huis clos, mais les discussions auront sans doute tourné autour de la question du sort de la chrétienté dans ce petit pays menacé notamment par l'expansionnisme de l'Azerbaïdjan. Un déplacement mené au pas de course, entouré de Bruno Retailleau et de Michel Barnier, débuté ce matin au mémorial du génocide arménien, où Valérie Pécresse a déposé une fleur en signe de recueillement, puis a symboliquement arrosé le sapin qu'elle avait planté en 2018 lorsqu'elle était venue en tant que présidente de région. La candidate s'est ensuite rendue au cimetière de Hirablou, où sont enterrés 2000 hommes, soldats ou jeunes volontaires engagés l'an dernier dans le conflit opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Le nom du cimetière signifie littéralement l'endroit des trois collines, et celui-ci surplombe la ville d'Erevan, capitale à l'architecture bétonnée héritée de l'ex-URSS. Troisième rendez-vous de la matinée, une rencontre avec le chef du culte chrétien arménien qui a témoigné son inquiétude au sujet des 150 églises du Haut-Karabakh passées sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. L'Arménie, terre meurtrie, est devenue un enjeu de campagne électorale à droite, notamment pour Valérie Pécresse, donc, dont la visite succède de 10 jours à celle d'Éric Zemmour.
Alexandre Chauveau, cette information Europe 1, écoutez bien, l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant va passer Noël et le jour de l'an en prison, alors qu'il a réglé pourtant l'intégralité de ce qu'il avait été condamné à payer dans l'affaire des primes de cabinet. La juge a refusé d'étudier sa demande de remise en liberté avant le 19 janvier prochain. Donc Claude Guéant, très concrètement, ne sortira pas de prison avant le 19 janvier prochain. On va mettre notre nez dans les comptes personnels du président de la République, c'est tout à fait légal. Rassurez-vous, comme tout élu, il doit publier en début et en fin de mandat un état précis de son patrimoine. Le site Moneyvox a donc épluché le patrimoine d'Emmanuel Macron. Maud Descamps, on s'aperçoit que le président de la République s'est appauvri pendant son mandat.
Oui, alors on va d'abord jeter un coup d'œil au compte courant du chef de l'État. Il y a 166 000 euros disponible, c'est l'équivalent d'à peu près un an des salaires de président de la République. Or, on sait très bien qu'un compte courant ne rapporte aucun intérêt, c'est donc de l'argent qui dort. Si l'on regarde également l'épargne du chef de l'État, eh bien ce n'est pas mieux, nous dit Maxime Chipoy, président de Moneyvox.fr.
Emmanuel Macron a un livret A qui est quasiment au plafond et un LDDS au plafond. Donc entre le livret A, le LDDS et son livret bancaire, sur lequel il a quasiment 110 000 euros, et ce livret bancaire, il rapporte 0,10%. Ben, Emmanuel Macron perd du pouvoir d'achat chaque mois, puisque c'est des livrets qui sont très peu rémunérateurs, et qu'avec l'augmentation de l'inflation, ben, c'est de l'argent qui perd de la valeur au fur et à mesure des mois.
Autre mauvais placement fait par Emmanuel Macron, une assurance vie très chargée en frais bancaires. Et puis il y a un emprunt de 350 000 euros pour rénover la maison du couple au Touquet. Là encore, le chef de l'État aurait tout intérêt à renégocier le taux d'intérêt de son emprunt, 3% en 2011, un taux qui pourrait facilement diviser par deux aujourd'hui.
Voilà des conseils en prêt immobilier au président de la République. 12h49, restez bien avec nous. Le prix des assurances auto est en baisse. On va voir ça en détail dans un instant avec Aurélien Fleureau. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h51, on parle souvent du prix de l'essence, des péages ou des réparations, dont les tarifs n'arrêtent pas de grimper, de grimper, de grimper. Eh bien là, on va vous parler d'une bonne nouvelle. Les prix des assurances automobiles ont baissé cette année. Aurélien Fleureau, bonjour Aurélien.
Bonjour Romain.
On paye en moyenne, par an et par voiture, 641 euros. Alors c'est une moyenne. Pourquoi ça baisse et où est-ce que c'est le moins cher?
Alors cela s'explique essentiellement, cette baisse, par le fait qu'avec les confinements et les couvre-feux, eh bien nous avons moins roulé ces derniers mois, donc moins d'accidents et moins de remboursements à effectuer pour les assureurs qui ont pu répercuter une partie de leurs économies sur les tarifs. Et puis il y a aussi de nouvelles offres plus flexibles qui permettent de ne payer que lorsque vous roulez. Et bien ça aussi, hein, c'est une autre source d'économie possible. Mais ce chiffre de 641 euros, donc 9 euros d'économie selon les données du comparateur d'assurance en ligne, le lynx.fr, c'est donc, vous l'avez dit, une moyenne. Et les mieux lotis sont les conducteurs bretons avec 533 euros, alors que dans le haut des dépenses se trouve la région sud avec une pointe à 717 euros, devant l'Île-de-France 708. Dernière différence, du classique, les prix grimpent pour les jeunes conducteurs, 971 euros chez les moins de 25 ans. Et c'est en revanche 427 euros chez les plus de 55 ans.
Merci beaucoup Aurélien. Voilà, pas de jaloux entre Paris et Marseille. Hein. On paye quasiment,
exactement,
quasiment le même prix pour l'assurance auto. 12h53, les conseils pour le repas de Noël. Chaque jour, un produit de fête. Hier, c'était les huîtres. Et aujourd'hui, c'est le foie gras. On est en direct avec Yves Boissière. Bonjour Yves Boissière.
Bonjour Radicias.
Vous êtes producteur de foie gras en Lot, dans le Lot-et-Garonne, à Frespech exactement, et fondateur du musée du foie gras. Alors on va parler déjà du foie gras. Déjà, comment se passent les ventes cette année? Est-ce que le foie gras se vend bien?
Et oui, la crise du Covid a généré des ventes par correspondance.
Ah oui.
L'annulation de tous les salons fait que les gens se sont fait livrer chez eux. les ventes sont maintenues. Et ajouté à la crise de la grippe aviaire, qui est une crise majeure, ça fait que cette année, donc, les ventes se passent bien.
Les ventes se passent bien. Qu'est-ce que vous dites?
C'est très tendu.
Ah oui, parce que vous avez des difficultés d'approvisionnement?
Non, c'est-à-dire on peut pas livrer tous les clients qui nous appellent, c'est comme ça, parce que si vous voulez, donc nous on est producteurs de canards en autarcie, tout est programmé déjà à l'avance, et donc là ça, on a du mal donc à pouvoir y arriver, mais bon, la plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a.
Effectivement. Quels sont les prix cette année?
Nous, on a eu une petite augmentation donc de 3% parce qu'on a donc des augmentations de céréales énormes de 35% sur les céréales, le blé, le maïs, le triticale, les faveroles, parce qu'on fait une alimentation avec des céréales que l'on concasse nous-mêmes et on s'approvisionne sur le Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne ici. Et donc cette année, les céréales, donc, ça a fait un bond énorme. Donc les prix n'ont pas beaucoup bougé. Ça a augmenté un peu, mais bon, c'est assez préoccupant quand même, toutes ces augmentations qui sont énormes.
Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui font une mauvaise publicité pour le foie gras? Je pense aux maires écologistes là, qui interdisent le foie gras dans les réceptions officielles. Ça vous fait mal d'entendre ça?
Oh ben, c'était pas plaisir, mais si vous voulez, je comprends, si vous voulez, que des fois, il y a des gens de la ville qui comprennent pas bien exactement comment ça se passe. Nous, ici, avec le musée du foie gras, on a l'habitude de recevoir les gens et on joue la transparence. Les gens viennent voir sur place et on démystifie beaucoup de choses. Là, il s'agit de postures politiques pour marquer le coup, qui sont sans effet, mais c'est pas très bon. Je constate que Yannick Jadot mangera donc du foie gras, pris chez un producteur quand même.
Mais évidemment.
Et moi, j'ai des amis qui sont écolo, qui viennent chercher du foie gras chez nous. C'est vrai que le fond du problème, c'est pas de dénoncer le foie gras comme ils le font, c'est quand même donc la remise en question du système donc de la nourriture en France avec la dictature du prix par le supermarché. Tant que les supermarchés vont faire la dictature du prix, ils vont étrangler donc les industriels qui à leur tour vont étrangler les producteurs et on arrive donc à des concentrations qui sont très très fortes. Donc globalement, c'est plutôt ça le fond du problème, c'est les concentrations qui sont produites par la dictature du prix.
Et ce que je retiens, c'est que voilà, vous avez des difficultés à fournir tous vos clients. Le foie gras a énormément de succès encore cette année. Merci beaucoup Yves Boissière. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. 12h56, le temps tout de suite avec vous, Anissa Haddadi. On va faire un point météo, bien sûr. Anissa, malgré le froid, on se console avec le soleil aujourd'hui, hein?
Oui, le soleil domine effectivement, Romain. Nous vivons en ce 21 décembre, à quelques jours de Noël, la plus belle journée de la semaine. Il va falloir en profiter. Alors, on a quelques bémols sur la Normandie, les Hauts-de-France, le Val-de-Saône, la Nouvelle-Aquitaine. Dans toutes ces régions, les brouillards givrants de ce matin ont vraiment du mal à se dissiper. Au bord de la Méditerranée, du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur et en Corse, là, le ciel se couvre avec même quelques gouttes possibles sur l'île de Beauté. Mais partout ailleurs, c'est le soleil qui domine. Et pour profiter de cette agréable luminosité, il va quand même falloir se couvrir puisque depuis ce matin, le froid est bel et bien là. Et cet après-midi, le thermomètre aura bien du mal à grimper avec seulement 0 degré à Dijon, 1 petit degré pour Besançon et Belfort, 3 à Lille et Lyon, 4 degrés pour Paris et Clermont-Ferrand, 5 à Nantes, 9 à Brive-la-Gaillarde et Bordeaux. Sur la moitié sud, c'est un petit peu plus doux avec 11 degrés à Toulouse, 13 pour Mont-de-Marsan et Toulon, 15 pour Ajaccio et Bastia et 17 degrés à Pau et à Tarbes.
Merci Anissa. 12h57, restez bien sûr Europe 1. Dans un instant, c'est la France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi et à demain.